beau sortir d'une conférence immersive, titrée Élimination, hein? Frankenstein, qui est en vedette à la SAT, c'est un voyage au cœur d'un mythe, du mythe. Eh bien, j'ai le plaisir de rencontrer un des artisans de ces représentations spéciales qui ont lieu cette semaine. Vraiment, vraiment, Luc Courchesne, étonné. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors, artisan, c'est un grand mot parce que moi, je suis un ami de Céline, un fan de ses livres. Je trouve que c'est une femme qui est d'une intelligence remarquable, qui a un discours très clair sur les grands enjeux de notre époque. Puis comme ici à la SAT, on a ce magnifique don, on cherche au fond comment lui donner de la valeur. Et j'ai pensé que d'écouter Céline dans un espace où le visuel vient appuyer ses propos, ce serait formidable. Alors c'est le cas, c'était fantastique.
Effectivement, fantastique et vraiment, vraiment, ça facilite l'immersion dans l'œuvre mythique de Frankenstein. Alors, si vous me présentiez un petit peu justement Céline, votre connaissance de Céline, qui est une sociologue des sciences.
Hein? Oui, Céline, c'est une...
Quel est son nom de famille?
Céline Lafontaine. C'est une grosse pointure, Céline. Elle publie au Seuil. Ça sera son quatrième ou cinquième ouvrage. Elle parle avec Edgar Morin. Elle est professeure à l'Université de Montréal en sociologie. Puis surtout, que comme sociologue, elle s'intéresse beaucoup aux sciences de la vie. Et là, l'occasion, en fait, c'était Frankenstein, le roman, qui a été écrit il y a 200 ans par Mary Shelley. À l'époque, elle avait 21 ans. Et dans ce roman de Mary Shelley, c'est comme une sorte d'illumination. En fait, elle a compris au début du 19e siècle des enjeux qui sont encore centraux aujourd'hui, sans trop savoir de quoi elle parlait, parce qu'une jeune femme de 19 ans ne peut pas comprendre tout ça. Surtout à l'époque, on était vraiment, on ne parlait pas encore de bioéthique et tout ça, mais aujourd'hui, on peut trouver dans ce roman-là la source de toutes les questions qui sont aujourd'hui centrales pour l'humain, à savoir comment, jusqu'où on doit aller, en fait, à la manipulation de la vie. Et c'est des grandes questions éthiques, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Frankenstein, à l'époque, c'est une fiction, mais aujourd'hui, on peut le faire. Donc, quelles sont les limites? Et elle en parle magnifiquement. Puis, bon, moi, comme je suis un fan de Céline, je lis ses livres, et puis je trouve que c'est surtout son point de vue qu'il faut écouter, parce qu'elle est vraiment, elle parle avec les scientifiques, elle parle avec tous les scientifiques, elle va à l'Institut Pasteur faire des conférences. Elle arrive avec un point de vue qui est très important, parce que souvent, dans la science, on a tendance à vouloir aller le plus loin possible sans trop se poser de questions. On verra, tu sais, on verra. Mais il y a des enjeux vraiment où on pourrait aller trop loin. Et elle pose ces questions-là.
Elle pose ces questions-là à travers son interprétation du roman mythique qui est Frankenstein. Oui. Donc, vous êtes en train de me dire que tant Mary Shelley, Céline Lafontaine s'inscrivent aux côtés d'écrivains, d'auteurs visionnaires.
Oui, ce sont des femmes aussi. C'est le point de vue d'une femme sur cette question-là. Alors, ça fait partie pour moi, tu sais, on parle beaucoup du MeToo ces temps-ci, de ces mouvements d'affirmation, au fond, d'une prise de parole, d'une présence, d'une autorité des femmes. Mais ça se fait, c'est un long processus qui commence avec le moment où, quand Mary Shelley a écrit son livre, elle ne l'a pas signé, Mary Shelley. C'est un livre anonyme. C'est plus tard qu'elle a dit, c'est moi qui ai écrit ce livre-là. Donc, les femmes n'étaient même pas, bon, ont commencé à écrire en tant qu'auteur.
La réalité de l'époque victorienne.
Et donc, au fond, c'est un point de vue, c'est une prise de parole, et c'est un point de vue, à mon avis, le point de vue des femmes est essentiel à l'évolution, à l'avenir de l'humanité, au fond. C'est ça que ça veut dire. Puis donc, elle, Céline, comme sociologue, qui regarde les sciences, en conversation avec tous ses chercheurs, avec ses technologies extrêmement puissantes, avec l'industrie qui soutient toutes ces recherches-là aussi, elle arrive avec un point de vue qui est celui, à mon avis, qui serait dominant si les femmes étaient au pouvoir.
Absolument. Alors, c'est très intéressant. Alors, le regard d'une femme d'une certaine époque, vraiment, qui est interprétée par une femme de maintenant, Céline Lafontaine. Deux regards qui se rejoignent dans le cadre de cette conférence immersive, vraiment. Et vous vouliez ajouter quelque chose, Luc Courchesne?
Bien, je disais que c'est pas parce que Céline est une femme. C'est un point de vue, en fait. On a tous en nous du masculin et du féminin, mais c'est surtout une perspective sur le monde. Et celle-là, on en a besoin, en fait.
C'est une conférence immersive. C'est toute une réflexion. Luc Courchesne, vous avez une contribution dans ce spectacle-là. Si vous pouviez nous parler de volets auxquels vous avez travaillé très activement.
Oui. En fait, mon rôle était très... c'était un rôle, au fond, d'instigateur. J'ai invité Céline, au fond, à réfléchir à l'idée de faire une conférence sur le sujet. Son mari, Yann, est un artiste visuel extrêmement prolifique. Et donc, c'était naturel qu'elle et lui, ensemble, se mettent à travailler ça. Moi, j'ai simplement ouvert la porte. Je les ai invités à le faire. J'ai commenté. On en a discuté. Ça fait 2 ans qu'on en parle, en fait. Puis ça aboutit ce soir à quelque chose. Puis pour la SAT, ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'on a ce magnifique dôme qui est un bel instrument de création, d'expérimentation. Il faut qu'on fasse ce genre de choses-là pour voir comment ça marche au fond. Et puis, on explore, en fait, si cette conférence-là marche, on pourrait penser avoir des séries de conférences qui utilisent ce médium-là pour donner un peu plus d'ampleur à ce que les gens nous racontent.
Oui, et revoir, revisiter, découvrir des œuvres littéraires d'importance, absolument.
Oui, absolument. Découvrir des œuvres littéraires, mais aussi, surtout, entendre des discours intelligents. Parce que quand on est en immersion, on est quelque part comme si à l'intérieur des idées. Si on parlait de Fanfreluche tout à l'heure, tu sais, qui nous amenait à l'intérieur des histoires, des grands, grands livres.
Oui, ça nous a fait bien rire pendant la période des questions.
Bien, c'est ça. On parle beaucoup on dit nouveaux médias d'aujourd'hui, mais ces médias-là viennent de quelque part. Et on a des grands exemples en peinture, en littérature, en théâtre, en art visuel, de choses qui ont brisé des frontières à d'autres époques. Et qui nous ont montré le chemin de cette raison. Donc, faites modeste par rapport à la nouveauté. Il n'y a rien de nouveau. C'est simplement que les outils qu'on a aujourd'hui ne sont pas tout à fait ceux qu'on avait à l'époque. Par contre, les discours, les concepts, eux, qui sont très puissants il y a 200 ans, le sont encore aujourd'hui.
Oui, d'accord. Alors, écoutez, et Luc Courchesne, comment ça s'est passé, le processus? Vous avez nommé la personne qui a travaillé aux images, hein, qui sont absolument envoûtantes, vraiment représentatives d'une époque qui nous envoûte encore, mais comment ça s'est passé le processus avec l'écrivaine, avec la sociologue des sciences?
Alors, avec Céline. Céline, en fait, tout est parti de son histoire. Elle a écrit le texte et puis elle a choisi le titre. Illumination Frankenstein. Et donc, le texte et le titre nous ont inspiré tout le reste, le visuel. Une des choses qui est très importante dans la façon de composer, au fond, le visuel, c'est une phrase de Marie Jolie qui disait « L'ordre vient pas du néant, il vient du chaos. » Alors, on voulait créer une sorte de chaos visuel qui s'organise. Parce que le chaos, en fait, c'est la matière première des idées. Le chaos, c'est la matière non organisée. Et donc, elle disait que dans son processus créatif, c'est ça, il y avait un chaos d'idées, de bouts, de ci, de ça. Avec ça, elle a écrit son roman. Et donc, nous, on prend, à partir d'un chaos visuel, on crée une certaine ordre qui vient appuyer les propos de Céline. Ça, c'était le principe de composition visuelle.
Alors, ça, c'est quelque chose, vous êtes ajusté à la vision de Céline Lafontaine, c'est cette impression de chaos que vous avez traduire en images.
C'est ça. Alors,
c'est réussi.
L'artiste ici, c'est Céline, qui fait une performance. Alors, on appelle ça une conférence. On se demande des conférences performatives, conférences immersives. On va voir qu'est-ce qui tient le coup avec le temps, là. Mais je pense qu'on va continuer parce que c'est vraiment, le dôme, c'est un bel espace de réflexion. Puis ensuite, le nombre de sujets qu'on peut aborder là-dedans pour nous amener au fond dans l'imaginaire des artistes, des penseurs, est complètement ouvert. Donc, c'est ça. Il faut revoir, au fond, les grands récits, les grands discours et trouver des nouvelles façons de communiquer ça.
Quelle belle et créative nouvelle voix là, dont vous nous parlez, Luc Courchesne. On ne saurait conclure cet entretien sans parler de vous. Vous parlez de supervision. Vous êtes là pour un projet qui a demandé une durée de réalisation de 2 ans. Vous avez supervisé ce projet-là. Donc, vous êtes bien implanté à la SAT. Hein? Luc Courchesne, vous êtes artiste visuel, bien connu.
J'ai la chance d'avoir une compagne qui s'appelle Monique Savoie. C'est une femme extrêmement déterminée et visionnaire. Donc, la SAT, c'est son idée. C'est elle qui a voulu que ça existe. Et on était beaucoup de personnes, dont moi, autour d'elle pour l'appuyer à différentes époques de cette histoire qui est sur 22 ans maintenant. Ça s'est écrit il y a 22 ans. Donc, je suis encore là. Il y a beaucoup de gens comme Joseph qui présentait Céline et là depuis le début aussi. La SAT, c'est vraiment une gang de gens qui ont voulu, sous le leadership de Monique Savoie, se donner un moyen un espace de création, de diffusion, auquel on a ajouté de la recherche, de la formation. Et ça a grandi comme ça, vraiment, à partir de la rue, du trottoir, là, en anglais, bottom-up, comme on dit en anglais. Et puis aujourd'hui, ben, je pense que ça fait la preuve de son utilité. Puis on peut se permettre d'explorer toutes sortes de choses. On commence maintenant à faire
une exploration des arts numériques ici, là. C'est très actif.
On fait des choses pour les enfants maintenant, depuis qu'on a la permission de les inviter à l'intérieur de nos murs. On travaille dans l'art visuel de pointe avec des artistes européens, allemands, américains, québécois. On a, au fil des ans, accumulé un catalogue d'œuvres qui ont été faits à travers le programme de résidence d'artistes, où on a plus de 120 titres qui commencent à circuler dans le monde. Donc, c'est un peu ça, au fond. Là, j'arrive de Shanghai, où on est invité, au fond, à aider des institutions d'enseignement et des lieux à s'équiper à la fois d'équipements et de programmes de formation qui ressemblent aux nôtres. Donc, on est en train, on est au fond, très modestement, on a, parce qu'on avait des envies et des moyens aussi, des gens qui nous ont aidés à inventer, au fond, une espèce d'économie de la culture numérique qui commence à essaimer, en fait.
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est un gros développement, en fait, depuis des années. Et vous ne cessez d'explorer et d'innover. Félicitations, Le Courchêne.
Oui, et ça continue.
Et ça continue. Et en plus, en terminant, en plus, vous êtes artiste visuel. En plus de ces nombreuses activités.
J'ai fait carrière comme professeur de design à l'Université de Montréal, mais j'étais l'artiste en résidence, disons, à l'École de design industriel, mais c'était un milieu formidable où j'ai pu m'épanouir comme chercheur, comme créateur-chercheur, à essayer de trouver des... Parce que la technologie, au fond, c'est un beau challenge, en fait. C'est des outils. Quand on est des créateurs, quand on s'intéresse à la forme, à l'expérience et tout ça, on essaie d'en faire quelque chose. Puis, à l'université, j'avais les moyens, au fond, d'essayer des dispositifs, d'amalgamer des technologies pour créer des expériences d'immersion. Alors, c'est un peu de là qu'on vient, nous, à la SAT, c'est de nos désirs d'artistes et de créateurs, souvent à travers des milieux académiques. J'ai des collègues qui sont à Concordia, à l'UQAM, à McGill, qui, tous ensemble, on a créé un milieu à Montréal qui est très riche, qui nous est très envié, en fait.
En fait, Montréal s'inscrit très bien. Montréal est une plateforme en art numérique vraiment reconnue internationalement.
C'est ça. Donc, ça s'est fait parce que Montréal est cette ville qui permet ça. Et beaucoup de gens viennent étudier notre modèle. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est la recette, là, mais on le fait. Et puis, les gens viennent nous observer, puis essaient de reproduire ça. Mais ça ne sera jamais la même chose ailleurs, par contre. Mais c'est ça. Donc, à travers tout ça, moi, j'ai une posture d'artiste. Ça veut dire d'avoir une liberté de création, tout simplement. Parce que d'un côté du spectre, il y a le design ou l'architecte qui travaille pour son client en termes de contraintes, de budget, d'échéanciers, d'un certain programme, alors que l'artiste, lui, se donne beaucoup de liberté. Alors, quelque part entre les deux...
Il y a la SAT, peut-être?
Bien, la SAT est un milieu, au fond, où complètement ouvert sur toutes ces démarches. Des démarches très libres, très exploratoires, très avant-gardistes, d'un côté, ou des démarches orientées vers des choses très utiles, comme par exemple, quand on travaille avec l'hôpital Saint-Justine, pour améliorer la vie du personnel ou des enfants malades, ou bien avec les bibliothèques de la Ville de Montréal, on est très collé sur les besoins de ces milieux. Donc, on prend nos talents, notre créativité, mais on l'applique à quelque chose de très concret qui va être utile pour eux. Donc, c'est un spectre très large dans lequel on peut bouger.
Alors, oui, et je pense que vous en retirez beaucoup de satisfaction de cette liberté créative, Le Courchêne.
Oui, bien, absolument. C'est ce qui nous garde jeunes.
Merci et on vous souhaite bonne continuation. Merci.
Merci. C'est jusqu'à la fin de la semaine, en fait, jusqu'à vendredi, ce vendredi.
Donc, une représentation jusqu'à vendredi et on espère qu'il y aura d'autres œuvres littéraires qu'on pourra découvrir accompagnées d'images comme celle comme ce soir.
Merci.